Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une émission spéciale de Invino BFM à 100% consacrée au whisky et au whisky américain en particulier. Nous sommes en direct du Whisky Live à Paris, à la Cité de la Mode et du Design, dans le 13e, juste à côté de la gare d'Austerlitz, délocalisée sur le stand Jack Daniels. Cette émission est en public et prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. À mes côtés, Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain.
Alors, quand vous avez été champion du monde des sommeliers en 92, est-ce que vous avez droit à des questions sur le whisky?
Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours que dans la formation de sommelier et dans les concours de meilleurs sommeliers, que ce soit de France ou de Navarre, il y a effectivement l'ensemble des boissons. Le vin, c'est le plus symbolique qui soit, mais les eaux, le café, le thé, les cidres,
et vous
les
avez eu des questions.
Et le whisky, bien entendu, font partie de notre formation et on a eu des questions sur le whisky.
Bon, vous avez bien répondu à l'époque.
Je crois que je m'en étais pas trop mal sorti, la preuve.
Bon, aujourd'hui, beaucoup d'invités nous accompagnent, notamment le duo magique Michel Guéraud, directeur général de Brown-Forman, et Nir Shoshana, expert en whisky. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Bonjour Michel, et merci Michel de nous accueillir sur le stand de Jack Daniels. Sans oublier la star du jour, Matt Bevins, le directeur international de la marque Jack Daniels, qui est venu spécialement des États-Unis pour participer à cette émission pendant une heure. Bonjour Matt et bienvenue en France.
Thank you, it's good to be here from Lynchburg, Tennessee.
Philippe Forbach, on commence par brosser un peu le portrait du marché mondial du whisky. Quelles sont les grandes donnes, Philippe?
Alors, c'est vrai que quand on pense à whisky, on pense naturellement à l'Écosse, voire à l'Irlande, qui sont effectivement les pays historiquement producteurs. Mais il y a de très gros marchés. Le marché mondial du whisky, c'est juste énorme. C'est 400 millions de caisses de 9 bouteilles.
Des caisses de 9, c'est pas du 6 ou du 12. Hein.
Et donc de 9 litres plus exactement, donc ça fait des 12 bouteilles, pardon, ce qui représente plus de 3 milliards de caisses de litres produits par an. Donc c'est juste énorme. Dans ce marché-là, dans l'univers des spiritueux, d'abord c'est la vodka qui domine le marché avec 30% des spiritueux vendus et consommés dans le monde. Mais le whisky n'est pas loin, 25% des spiritueux.
Donc c'est en numéro 2.
Exactement, numéro 2. Une boisson alcoolisée, un spiritueux en tout cas sur 4, et du whisky. Donc ça c'est très important. Ensuite, dans ce marché, il y a une dominante qui est étonnante d'ailleurs. C'est que c'est sûrement l'un des whisky entre guillemets les moins connus, mais c'est le whisky produit en Inde et globalement un peu dans d'autres pays.
Le whisky sont indien, pas, vous dites.
Exactement. C'est vrai qu'il y a une tradition du whisky en Inde, logiquement, grâce ou à cause de l'époque anglaise et les fameux comptoirs.
Les congénères de David Cobbold qui connaissent aujourd'hui.
Qui ont développé aussi ou aidé le développement de l'Inde à l'époque. Et du coup, il y a toujours cette culture du whisky en Inde. Sinon, dans les autres producteurs, bien entendu, c'est l'Écosse, qui représente 25% de la production mondiale. Arrive en numéro 2 les USA, et on va en parler pas mal autour de cette table aujourd'hui, avec 11%, suivent le Canada avec 5%. Donc ça, en termes de production, ça donne un peu les clés de ce marché, qui est un marché gigantesque en termes de volume et en termes de business. On est quand même sur une radio qui parle argent et ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. En termes ensuite de consommation, ça c'est le deuxième aspect bien entendu des choses. D'abord, il y a un chiffre qui m'a étonné quand j'ai préparé cette émission. Est-ce que vous savez combien de litres de whisky est consommé chaque seconde dans le monde?
Chaque seconde dans le monde?
C'est un chiffre intéressant, on peut calculer pendant notre émission combien va se boire. Eh bien, c'est de l'ordre de 200 litres par seconde dans le monde.
Avec modération toujours. Hein,
voilà, oui, mais sachant que dans le monde, nous sommes assez nombreux, ça ne fait pas beaucoup par personne. Alors, les principaux donc pays producteurs, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Écosse, les USA, suivent l'Irlande et le Japon. Et le Japon est presque un nouveau venu du XXe siècle, mais qui aujourd'hui s'est fait une jolie place en volume et également en réputation.
Oui, un whisky japonais qui a été élu meilleur whisky du monde.
Exactement, même plusieurs fois, plusieurs années d'affilée. C'était un whisky de la maison Suntory notamment. En termes de consommation, donc la France arrive en tête, si on ramène ça par tête d'habitant. C'est de l'ordre de 2,15 litres à peu près par an et par habitant. Suivre derrière, alors c'est étonnant, l'Uruguay par exemple avait 1,77 litres, les États-Unis 1,4, pas loin l'Australie, l'Espagne. Un chiffre très étonnant aussi, c'est les Émirats Arabes Unis avec 1,2 litres par an et par habitant. Devant, ou au même niveau que le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Alors, où sont les Anglais? Pas beaucoup de bière, mais le whisky, c'est aussi chez eux.
Où sont les Anglais?
Les Irlandais, qui consomment 1,2 litre par an par habitant, le même niveau de consommation que l'Inde, suivent ensuite le Canada, l'Afrique du Sud, enfin, etc. Donc ça, c'est assez par tête par an et par habitant. En termes, bien entendu, ramenés au nombre d'habitants, les États-Unis sont
numéro
le
un.
Principal marché au monde, suivent ensuite l'Inde et la France, qui est un très très gros marché pour le vin. Sachant que l'univers des spiritueux en France est environ 350 millions de litres et là-dessus 200 millions quasiment, donc la moitié du marché, c'est pratiquement le whisky, ce qui est juste énorme.
Énorme, Philippe. Après l'univers, donc en général du whisky avec des chiffres effectivement impressionnants, zoomons sur les whisky américains grâce à vous, Michel Guéraud, le directeur général de Brown-Forman. Un peu d'histoire, alors ça débute il y a quelques années déjà avec des immigrants sympathiques qui arrivent avec des bonnes choses.
Tout à fait. Alors, il est intéressant de noter que l'histoire du whisky américain est totalement liée à l'histoire de l'Amérique. Et notamment au développement des pionniers, et plus particulièrement des pionniers écossais, anglais et irlandais, qui ont commencé donc à se développer de l'Est vers l'Ouest américain. Et lorsqu'ils sont arrivés dans les plaines et les vallons du Kentucky et du Tennessee, ils ont trouvé un territoire approprié pour la culture, bien sûr, des céréales, du seigle, de l'orge, de l'avoine, et aussi du maïs, puisque le maïs, donc, était aux États-Unis. Donc, ils ont commencé à faire l'élevage et la culture, et puis, retrouvant leurs racines, leurs origines, et d'autre part aussi, le grain étant existant et les moyens de conservation étant relativement limités, ils ont eu l'idée, donc, de transformer ce grain en whisky, tel qu'ils le connaissaient donc dans leur pays d'origine. D'une part parce que, bien sûr, ça permettait la conservation de grains, et d'autre part aussi, bien sûr, puisque ça permettait de valoriser la production agricole en boisson alcoolisée. Voilà. Alors, à l'époque, bien sûr, les moyens de communication étaient relativement limités, les routes n'existaient très peu, et donc c'était essentiellement par voie fluviale, donc notamment concernant le Ohio River et le Mississippi River, que ces whisky américains qui étaient conservés en barrique, puisque c'était le contenant principal de l'époque, donc naviguaient tout au long de ces fleuves et descendaient vers la Nouvelle-Orléans. Alors vous imaginez bien, à l'époque, nous sommes dans une époque de pionniers où la notion de respect, de sanitaire et de qualité n'était pas forcément toujours respectée. Et donc au fil du fleuve et au fil du temps, eh bien il se pouvait que la barrique perde un petit peu d'alcool et soit remplacée par de l'eau ou autre chose. Donc il y avait un aspect maintenance de qualité et sanitaire qui était quand même important. Et donc un jour, il y a un monsieur qui a eu une idée géniale, et c'est monsieur Brown, donc... Aujourd'hui, tel que vous connaissez son entreprise, c'est la société donc Brown-Forman. Il a eu la simple idée de mettre donc ce produit en barrique en bouteille. Donc c'est le premier qui a mis un whisky, et notamment c'était la marque Old Forester, en bouteille. Et il a pu valoriser la qualité de ce produit. Donc voici pour le développement donc du Bourbon. Et d'autre part, nous avons au Tennessee un monsieur aussi qui s'appelait monsieur Jack Daniels et qui lui a eu l'idée.
Donc il a vraiment existé, Michel.
Ah, monsieur Jack Daniels, c'était un monsieur avec un fort caractère bien trempé. Et c'est pour ça que nous avons Matt ici présent qui va vous parler.
Qui lui aussi a beaucoup de caractère.
Sometimes I do.
Parfois, oui, parfois.
Voilà, et donc cette consommation de bourbon et de Tennessee whisky donc, s'est développée au fil du temps. Et l'administration américaine, l'État américain, a décidé à un moment donné de réglementer et de légiférer sur ce type de produit. Donc on a défini ce qu'était comme bourbon, et ensuite on a défini ce qu'était un Tennessee whisky. Alors qu'est-ce que c'est comme bourbon ? Je ne vais pas m'étaler longuement, mais en fait, très simplement parlant, c'est un produit donc alcoolisé qui est à base de 51% de maïs minimum, qui vit minimum 2 ans en fût de chêne neuf, et donc cette notion de fût de chêne neuf. Pourquoi le fût de chêne neuf ? Il y avait bien évidemment une notion sanitaire, toutefois de plus, mais aussi le fait d'avoir un fût de chêne neuf à chaque production et de ne pas pouvoir réutiliser ce fût de chêne permettait à l'administration américaine de contrôler la production et de prélever les taxes. Voilà. Et donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais effectivement, chez Brown-Forman, la notion de fût est importante, puisque nous avons nous-mêmes 2 tonnelleries. Et pour votre information, nous produisons 600 000 fûts par an. La consommation de whisky américain et de Tennessee whisky se développant, et je dirais auprès quelque peu avec les débordements sociaux et le manque de responsabilité qui n'existait peu ou pas à l'époque, donc... des groupes se sont formés pour prévenir et pour préparer cette, je dirais, cette responsabilité. Et donc, est apparue, et c'est une étape importante donc dans l'histoire des whisky américains, la prohibition. La prohibition, vous allez me dire, que vient faire la prohibition dans le monde des whisky américains ? Eh bien, curieusement, vous allez être surpris, mais la prohibition, comme son nom l'indique, interdisait la production la distribution et la consommation d'alcool, quel qu'il soit. Mais il y avait des exceptions. La première exception, c'est que on pouvait produire des boissons alcoolisées pour des raisons médicales. Alors, là aussi, pour faire l'histoire simple, donc vous étiez quelque peu fatigué, dans un état grippeux, vous alliez voir votre médecin
et
votre
antidépresseur,
prescription. Et votre médecin vous prescrivait 10 centilitres de, on va dire, de bourbon, et du coup vous alliez à la pharmacie et vous pouviez consommer votre bourbon et vous alliez beaucoup mieux. Et donc pour ce faire, bien évidemment, donc pour avoir des boissons médicales, il fallait octroyer des droits de distillation, et c'est la société Brown-Forman qui a eu le droit de distiller pendant la prohibition, ce qui lui a permis de maintenir un stock constant pendant ces 13 années de prohibition, puisqu'il faut savoir quand même qu'une période de prohibition a duré de 1919 jusqu'à 1933.
13 ans, c'est énorme, Philippe. Vous imaginez, vous, 13 ans sans boire ou pas ?
Difficilement.
Avec modération.
Avec
toujours,
modération toujours, mais c'est voilà. Vrai que c'était frustrant, mais il y a eu quand même tellement de contrebande,
de passe-droit,
mais même de situation clandestine, etc. C'était une période extraordinaire dans l'histoire américaine.
La deuxième tolérance, c'est qu'effectivement, on pouvait produire du vin de messe. Vous comprenez, bien évidemment, donc l'utilité du vin de messe.
Il y a beaucoup de monde à l'église.
Et effectivement, les églises étaient largement fréquentées. Et ensuite, on pouvait aussi produire pour la consommation à la maison. Donc vous et moi, nous pouvions créer notre petit élixir à base souvent de plantes, et donc bien entendu à faire participer.
Il paraît que les baignoires étaient très utilisées.
Les baignoires étaient très utilisées, exactement.
Et donc, baignoires par appartement.
Donc en fait, lorsque vous lisez les livres historiques, la prohibition n'a jamais été réellement appliquée. Alors ça, c'était pour, je dirais, la production légale interne, notamment cette notion de boisson médicale. Mais bien évidemment, est arrivé en place donc tout ce qui était production illégale, et alors là nous avons des faits historiques qui sont très intéressants, notamment dans les vallées et les vallons du Kentucky et du Tennessee, où là les distilleries clandestines se sont développées, et vous avez entendu certainement parler de ces termes un petit peu sympathiques qu'on appelle donc les moonshining, c'est-à-dire donc c'était les distilleries qui élaboraient leur bourbon et leur Tennessee whisky donc à la lumière de la lune, parce que comme ceci ils n'étaient pas visibles, ils étaient discrets pour les agents de l'administration. Et alors là, Hollywood a largement repris le sujet, mais bien évidemment, vous avez tous entendu parler d'Al Capone et donc de son gang et de sa bande, des Lion Ness, donc
incorruptibles,
merci beaucoup. Oui. Donc tout ceci n'est pas une légende, c'est vrai, c'est réel, et donc ça a existé. Il faut savoir aussi, et là c'est sur un plan plus économique, que ça a facilité le développement de la production de whisky canadien. Puisque les Canadiens, c'est bien entendu au nord des États-Unis, donc ils ont commencé à produire et à présenter des boutiques le long de la frontière donc américaine, où nos concitoyens américains allaient passer un week-end au Canada et revenaient en fin de week-end. Voilà. Et la deuxième aussi observation qui est intéressante, c'est qu'il s'est créé un cordon de distribution au niveau de la mer des Caraïbes, puisque donc des îles qui bordent les États-Unis, vous aviez des bateaux plateformes qui étaient de réels entrepôts flottants. Et de ces bateaux plateformes, vous aviez des petits bateaux rapides qui approvisionnaient les côtes américaines. C'est de là aussi qu'on commençait à se créer les croisières. Les croisières n'existaient pas précédemment. Et donc, les gens partaient en croisière à Cuba, visitaient l'île de Cuba et revenaient, bien sûr, aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a toute une incidence économique, qu'il s'agisse d'une économie de spiritueux ou d'une économie de touristique ou générale, qui a été influencée par la période de la prohibition.
Et Michel, de Cuba à l'époque, il ramenait du whisky plus ou moins distillé dans le coin, ou du rhum déjà
alors,
à l'époque.
Voilà, ils ne ramenaient pas que du whisky, bien évidemment, ils ont été initiés à tout ce qui était rhum.
Parce que le rhum est un des grands spiritueux du monde aussi en termes de volume.
Tout à fait. Alors je vous disais tout à l'heure donc que la distillerie de Brown-Forman a continué à produire puisque nous avions une tolérance, nous avions un droit. Par contre, dans le même temps, la distillerie Jean Daniels a dû fermer.
D'accord. Et pourquoi ? Donc c'est pas autorisé, quoi.
Et ce n'était pas autorisé. Ils n'avaient pas le droit de faire des boissons médicales. Et donc, pendant cette période qui a même duré de nombreuses années, eh bien, Monsieur Jack Daniels et ses neveux se sont convertis dans la production, dans l'élevage de mules, dans le négoce de mules. Donc, vous voyez, c'était vraiment, là aussi, un changement radical en termes, donc, d'économie et de développement. Une dernière anecdote concernant la prohibition, parce qu'elle est quand même tout à fait croustillante et significative. Donc, les stocks de Jack Daniels qui étaient initialement à Vicksburg, donc à côté de Nashville, ont été transporté par l'administration américaine à Saint-Louis, dans le
Mississippi. À dos de mule, d'ailleurs.
À dos de mule, voilà, dos de mule, exactement. Voilà, avec le petit logo sur le côté. Voilà. Et donc, dans un entrepôt central contrôlé par l'administration centrale, donc à Saint-Louis, ce stock était gardé. Et il se trouve que des gens malveillants donc, de Saint-Louis ont monté toute une organisation où ils ont loué, à côté de l'entrepôt où se trouvait la production de Jack Daniels, un entrepôt vide. Ils ont creusé un tunnel, et ceci n'est pas une romance, c'est vrai, c'est écrit dans les livres d'histoire. Ils ont creusé un tunnel. Pendant la nuit, ils rentraient dans l'entrepôt de Jack Daniels. Ils allaient vider les barriques de Jack Daniels, mais subtilité, ils les remplissaient d'eau. Donc jusqu'au jour où, et ça, ça a duré pendant des années, jusqu'au jour où un agent des douanes ou un agent des indirects a été quand même
plus subtil. Un petit coup, là.
Il est non seulement il a tapé sur la barrique pour savoir si la barrique était pleine, mais en plus il a goûté et là il s'est rendu compte donc qu'il y avait de l'eau. Et la famille de Jack Daniels a été énormément embêtée parce
qu'on pensait que
c'était eux qui étaient à l'origine de cette fraude. Exactement. Donc toutes ces anecdotes autour de la prohibition, et donc bien évidemment on s'est rendu compte au fil du temps que la prohibition ne portait pas ses fruits, d'une part sur un plan sanitaire parce que les alcools qui étaient mis à consommation n'étaient pas forcément d'excellente qualité, et aussi surtout par l'absence de taxes et de collecte d'impôts.
Merci Michel. Alors Matt, vous êtes venu avec votre traducteur Bernard Reeves. D'abord, c'est quoi votre métier quand on est brand ambassadeur au niveau mondial? C'est quoi votre job?
Eh bien, moi je surveille la marque Jack Daniels globalement. Et je travaille autour, partout dans le monde pour raconter l'histoire de Jack Daniels. Donc je vais dans beaucoup de marchés à travers le monde, de l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Et je raconte ces histoires de Monsieur Jack et sa distillerie à Lynchburg.
Alors cette année, joyeux anniversaire, hein, 150 ans, bravo!
150 ans, oui, effectivement. Et, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, comme vous avez dit tout à l'heure, que Jack Daniels, c'était un vrai bonhomme. Il est né au milieu des années 1800, en 1850. Et son prénom, c'était Jasper Newton Daniel. Donc, heureusement, on l'appelait Jack après, c'est plus facile à prononcer quand on veut commander un verre, hein, pour Jasper. Mais les gens ne savent pas que son vrai prénom, c'était Jasper. Et donc, il est parti de chez lui très jeune. Il a eu des problèmes avec sa belle-mère.
Mais belle-mère, c'est partout les problèmes dans le monde. Hein.
It must be common. Et oui, c'est tout à fait fréquent. Et il est parti vivre avec un pasteur local, un prêcheur. Donc il avait deux esprits dans son monde. Donc il sauvait les esprits, le Saint-Esprit, puis de l'autre côté, il fabriquait du whisky. Et donc, il a décidé de rester avec l'Église. Et Jack Daniels a pris sa distillerie, et il a repris la distillerie, le reste.
Voilà.
Mais c'était un homme qui était fascinant. Il faisait que 1m48 environ.
1m48?
Ouais.
Ouais,
ouais, donc tout petit.
À 58, c'est pas très grand quand même.
58, pardon. Non, 48.
58. 58. Au pas bord, il était petit. Alors, il était petit.
On se dispute régulièrement entre 1m57 et 1m58. On n'est jamais vraiment sûr.
The transition, yes. Yeah, so he was a short man,
donc, il était tout petit, mais il était très têtu, très indépendant. Et donc il y a quelques histoires sur sa façon
de faire.
Et donc quand il devait choisir la bouteille, la bouteille est carrée parce que le verre, les fabricants de verre à l'époque, ils venaient le voir pour lui. Il montrait des bouteilles rondes, en fait, qui étaient utilisées dans l'industrie. Lui, il refusait catégoriquement de choisir une bouteille ronde. Et un jour, il a vu une bouteille carrée. Il a dit, je veux une bouteille carrée, parce que moi, je suis quelqu'un de carré. Et donc, c'était vraiment sa personnalité. Hein. C'était quelqu'un de très têtu, très obstiné. Et puis, ça l'a hanté plus tard, mais bon, je peux raconter cette histoire. Mais bon, donc, il était très indépendant et il était très romantique. C'était son point faible, un petit peu. Donc, mais là, on appelle ça Old Number 7. Les gens, ils ne savent pas. Mais bon, il y a une histoire. C'est qu'il avait 7 petites amies à travers le monde.
C'est tout? Uniquement 7?
Au moins 7. On sait qu'il y en avait sept. Donc voilà une histoire de pourquoi il a appelé ça Old Number Seven. Il préférait la septième copine.
Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en direct du Whisky Live à Paris, à la Cité de la Mode et du Design, ce grand salon qui vient d'ouvrir ses portes avec beaucoup de monde autour de nous. Nous sommes sur le stand Jack Daniels, accueilli notamment par Michel Guéraud. Philippe Forbach, si on parle un peu de l'élaboration du whisky en général, il faut beaucoup de raisins pour créer une bouteille ronde ou carrée?
Il faut énormément de raisins, effectivement. Il faut surtout, enfin, les ingrédients principaux, donc c'est de la céréale. On l'a évoqué tout à l'heure, Michel nous parlait du maïs, et notamment pour le bourbon, le seigle pour le rail, par exemple, l'avoine également, auquel on pense pas très souvent. On pense plutôt à la nourriture pour les animaux, mais pas trop.
Les mules, notamment.
Le blé aussi, l'orge, bien entendu, et notamment l'orge qui est considérée notamment en Écosse comme la céréale noble. Et cette orge, elle peut être ou non, d'ailleurs, maltée. C'est-à-dire que on la fait torréfier, on essaye d'extraire l'amidon pour pouvoir donner la matière ensuite à la fermentation. Donc ça, c'est la base même, donc la céréale. Le deuxième élément très important, c'est l'eau.
Bon.
Et il y a à chaque fois à proximité des grandes distilleries du monde, des sources qui sont remarquables, et la minéralité est tout à fait particulière et donne une saveur particulière au whisky.
Nirshoshana, vous avez été donc meilleur barman de France en 98, vous êtes consultant aujourd'hui, expert en whisky. Est-ce que c'est facile de faire la différence entre whisky irlandais, japonais, français, américain? Alors Philippe Forbach, lui, sur les vins, il est imbattable, mais sur les whisky, là, c'est quand même un peu plus de degrés d'alcool, non?
Alors oui, il y a plus de degrés d'alcool, ça c'est indéniable, mais en revanche, La manière de distiller, la manière de vieillir, et bien sûr l'origine des céréales fait énormément de différence. On le sait, hein, certains grains sont plus secs, certains plus épicés, certains plus gras. Alors évidemment, quand on va utiliser du maïs, on va avoir des whiskies plus gras. Hein, le maïs, c'est plus riche, c'est plus sucré. Et puis quand on va utiliser de l'orge maltée, on va avoir quelque chose de plus caramélisé, mais aussi un peu plus sec, plus sharp.
Donc il y a vraiment des différences.
Oui, c'est vraiment
Michel
très
Michel Guéraud, qu'est-ce qu'on peut dire sur les spécificités, Michel, de Jack Daniels au niveau du goût?
Alors, les spécificités de Jack Daniel's au niveau du goût, j'en parlais donc précédemment, mais effectivement, c'est ce principe d'élaboration qui a été quasiment créé par monsieur Jack Daniel's, donc, qui est le filtrage sur le charbon de bois d'érable. Et donc là, je vais laisser Matt reprendre la suite par rapport donc à ses compétences.
Oui, donc, en une minute, Matt, le goût de Jack Daniel's.
Yeah, sure. C'est
très caractéristique. C'est différent. Il y a une différence entre le Tennessee Whiskey et le Bourbon. Donc 51% de maïs pour les deux. Donc ça donne ce côté un peu doux. Les barriques neuves, donc les fûts neufs, ça donne la couleur aussi, le parfum et toute la couleur. Ça vient des fûts, donc très caramel, très vanille avec le whisky américain. Et Jack Daniel's, bien sûr, il y a cette filtration sur le charbon de bois. Donc ça fait 3 mètres, plus de 3 mètres de charbon de bois. Ça coûte cher, donc une filtration avant de passer en barrique. Et ça, c'est comme une sorte d'éponge. Hein, donc ça enlève les différents éléments qu'on ne veut pas retrouver, donc les choses qui vont distraire du goût. Donc quand ça rentre en fût, c'est très pur, donc ça va prendre tout le parfum, tout le goût du fût. Donc c'est ça, c'est tout à fait unique, et c'est pour ça que c'est différent à Jack Daniel's.
Et donc, Michel Guéraud, qu'est-ce qu'on peut dire comme spécificité? C'est-à-dire que le consommateur, il reconnaît ça, ou alors il faut être un expert comme Nir?
Non, c'est tout à fait reconnaissable, puisque déjà, par rapport aux autres catégories de whisky, je disais tout à l'heure que la base de 51% de maïs pour être un bourbon ou un Tennessee whisky, le maïs apporte un goût beaucoup plus rond, beaucoup plus sirupeux, je dirais, par rapport à des bases d'orge ou d'orge maltée. Donc là, déjà, c'est une première différence. C'est pour aussi la raison pour laquelle aussi les Tennessee whisky, notamment, sont très accessibles à tout type de consommateurs. Et d'autre part, cette base donc de maïs permet aussi un assemblage en termes de cocktail aussi qui est très intéressant.
C'est-à-dire on parlait tout à l'heure avec Nir notamment, et Barbara.
Tout à fait. Donc je ne veux pas anticiper donc sur Nir, mais c'est vrai que les bourbons et Tennessee whisky sont d'excellentes bases de cocktail parce qu'ils sont facilement mixables de par leur douceur et de par aussi leur subtilité.
Philippe Forbach, en revenant à l'élaboration quand même.
Oui, en termes d'élaboration, j'étais un peu rapide. Il y a effectivement l'eau, le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la levure, effectivement, qui permet d'enclencher le phénomène de fermentation. Parce que finalement, on fait une sorte de bière au départ. C'est un peu ça la base. Et cette bière est distillée ensuite. Il y a tout un travail d'élaboration, de filtration. Et ensuite, le quatrième élément, donc on a parlé de la céréale, l'eau, la levure, c'est le bois. L'élevage sous bois est un élément important dans la définition qu'on a évoquée tout à l'heure du bourbon. Il y a le fût neuf. de fût neuf, de chêne, plutôt de chêne américain, qui va donner ces arômes un peu caractéristiques, vanillés, épicés, qui rapporte aussi, en plus de cette douceur qu'on a évoquée avec le maïs, qui va apporter aussi cette douceur caressante particulière. Et donc, en fonction du type de bois, en fonction du type de fût, en fonction de ces éléments-là, on a aussi une condimentation particulière.
Particulière. Matt ?
Yes. Yeah, I think the wood is so important.
Oui, le bois c'est tellement important. Donc pour le vieillissement.
Un bois français ou un bois américain?
It is American.
Non, c'est du bois américain, du chêne blanc américain.
White oak.
Chêne blanc, oui.
But it's the yeast. You mentioned the yeast here at Jack Daniel's.
Mais là, le vieux en Jack Daniel's, notamment, nous pouvons tracer notre souche avant la prohibition. Donc l'ADN de notre souche est pré-prohibition. Donc nous avons une souche qu'on garde chez Jack Daniel's, et c'est ça qui fait une différence. Et c'est pour ça qu'on est différent des autres distilleries. On a parlé du maïs, le seigle, orge maltée, et aussi notre eau de source que nous avons. Et donc il n'y a pas du tout de fer, mais il y a beaucoup de minéraux autrement. Et le fer, c'est très mauvais pour le whisky, et ça peut changer la couleur et tout ça. Donc avoir cette eau pure, sans fer, c'est très important. C'est pour ça que Jack Daniel, il a pris Lynchburg, Tennessee, pour sa distillerie.
Michel Guéraud, le goût a changé depuis la création de Jack Daniel, ou pas? Est-ce que ça évolue? On tient compte de l'âge des consommateurs, tous ces petits vieux.
Le goût est identique depuis l'origine, depuis l'enregistrement, depuis 150 ans, depuis l'enregistrement de la distillerie. Je voudrais revenir sur les représentations du bois. Parce qu'en fait, que ce soit pour les Bourbons ou les Tennessee Whisky, nous ne sommes pas sur des comptes d'âge. Vous entendez souvent parler de comptes d'âge en matière de whisky. Les Américains ne sont pas sur un compte d'âge. Parce qu'en fait, compte tenu des variations climatiques que nous avons au Tennessee et au Kentucky, l'été est très chaud, l'hiver très froid, il faut savoir que comment un alcool mature, c'est parce que l'alcool va pénétrer dans le bois. C'est la raison pour laquelle on utilise notamment le chêne blanc. Donc, il s'en pénétrant dans le bois qui va se charger de tanins et de quintessence de bois. Le bois va lui donner 100% de sa couleur et 70% de la saveur.
70%
de la saveur. Donc, c'est la raison pour laquelle nos master distillers et master testers que nous avons, et nous les avons peu, puisque chez Jack Daniel's, il y a eu 7 master distillers, vous avez remarqué que nous sommes très sensibles.
7 en 150 ans.
Très sensibles.
C'est une grande famille, quand même. Oui, c'est
au chiffre 7 chez Jack Daniel's. Et donc, nos master distillers, puisque nous avons aussi un master distiller pour notre gamme de Bourbon, travaillent des élaborations à partir des évolutions de fût et de bois. Et la dernière en droite, juste aussi pour simplement symboliser la chose, c'est que concernant Jack Daniel's, le Jack Daniel's en No. 7 est identique depuis 150 ans. Mais par contre, on a lancé ce qu'on appelle Jack Daniel's Gold, numéro 27, où là, en fait, vous avez une base de Jack Daniel's et ensuite, il est affiné, fini dans un fût d'érable.
Merci Michel, merci à tous. On marque une pause pour les infos de 13h30 et ensuite retour en toute modération, bien sûr, au Whisky Live en direct pour cette émission en public du stand Jack Daniel's.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au Whisky Live à Paris. Nous sommes à la Cité de la Mode et du Design dans le 13e arrondissement, juste en face de la gare d'Austerlitz, en public. C'est le Whisky Live, délocalisé sur le stand de Jack Daniel's, avec à mes côtés toujours Philippe Aubrach, Michel Guéraud, Matt Blevins, qui est venu spécialement aux États-Unis pour être avec nous aujourd'hui. Doublement bonjour Matt. Nir Shushana, mais également deux petites nouvelles, elles sont charmantes. Barbara Sidris et puis Célia Guéquière. Bonjour, mesdemoiselles ou mesdames. C'est pareil, ça fonctionne. Bonjour. Alors Barbara, vous êtes lauréate du concours national Barman Brown-Forman 2016. Et vous, Célia, experte en whisky, évidemment, de la maison du whisky. Alors comment est organisée la consommation du whisky dans le mode, les différents modes de consommation? Nir, qu'est-ce qu'on peut dire?
Aujourd'hui, le whisky, c'est principalement bu pur ou mixé avec un soda ou un jus de fruits. Principalement avec des glaçons quand même. Hein. Ça reste le mode de consommation majeur.
Avec des glaçons, ensuite, ça s'apporte quoi de glaçons là?
Parce on a de plus en plus de whisky qui arrive ce qu'on appelle en brut de fût, donc avec un fort pourcentage d'alcool. Et donc en mettant un glaçon d'eau de source dedans, on va réussir à redescendre légèrement la température. Donc le
quand vous dites fort pourcentage d'alcool, il est à combien à peu près?
On est à l'entour de 50-55 degrés.
Quand même, hein,
donc
ouais.
C'est plus agréable à boire, un peu plus frais. Et puis bien sûr, en diluant un peu d'eau, on va redescendre le pourcentage d'alcool pour le rendre un petit peu plus agréable aux papilles. On connaît le fameux trait d'eau de seltz des Écossais. On connaît aussi le petit glaçon des Japonais, ou un gros glaçon taillé directement au couteau en forme ronde pour moins fondre, mais dégager quelques gouttes d'eau. Alors bien sûr, de l'eau de source, hein, pour éviter la dégradation du goût avec la possibilité de présence de chlore si on prend de l'eau du robinet. Donc à la maison, une petite anecdote, hein, si vous voulez faire des glaçons, un peu d'eau de source, vous les mettez au congélateur.
Et puis non, pas d'eau du robinet, les... non.
Non, c'est pas très conseillé.
Vous même à Paris, concentré. Pourtant, l'eau est bonne, non?
Oui, mais une fois congelée, elle va avoir tendance à pailleter. Donc c'est plus agréable de mettre de l'eau de source ou de l'eau filtrée avec
ou de l'eau filtrée directement. Et le goût, les modes de consommation ont évolué avec le temps ou pas?
Oui,
ou
alors
déjà nos arrières grands-parents utilisaient
Michel,
d'autres sources.
Tout à l'heure, citait la prohibition. On a évidemment énormément de consommation en cocktail depuis la prohibition. Il faut savoir quand même que Michel n'a pas parlé d'un des travers aussi de la prohibition, c'est les fameuses speakeasy, ces bars planqués où on pouvait boire à tout va et discuter de manière libre, d'où le nom speakeasy. Mmh. Et l'alcool débridant la parole, on allait retrouver ce mode de consommation en cocktail puisqu'on pouvait masquer ainsi le fait que l'alcool était présent dans le verre.
Et aujourd'hui, donc, le mode de consommation principal, c'est pur glaçon ou alors c'est cocktail, qu'il y en a les deux, quoi.
Beaucoup d'évolutions, hein, spécialement en France. On a une très grosse évolution sur le cocktail. On était très en retard. On a bien rattrapé notre retard parce qu'aujourd'hui, on nous considère comme capitale européenne du cocktail, ce qui est quand même super cool.
Ah, quand même!
Oui, quand même.
Alors, hors whisky américain, dont on parlera tout à l'heure avec Barbara, avec Matt, avec Michel, qu'est-ce qu'on a comme cocktail célèbre qu'on peut trouver avec du whisky?
Alors, on a évidemment tout ce qui est Rob Roy, whisky sour, donc avec du citron, du sucre, un petit peu de blanc d'œuf. Ouais, ça paraît un peu bizarre, le blanc
d'œuf. Du blanc d'œuf.
Ouais, ça rajoute beaucoup d'onctuosité, ça casse un peu l'acidité naturelle du citron jaune. Et puis, on va retrouver aussi, je vous disais, le Rob Roy, hein, qui est le pendant européen du Manhattan, le fameux Manhattan avec vermouth rouge, un petit peu de bitter, et puis un whisky dedans. On va faire ça au verre à mélange très clair, très clean. Il faut que ce soit le plus limpide possible, à la limite de la couleur de la topaze. Donc vous allez avoir vraiment ces cocktails qui vont être pour faire ressembler en fait votre cocktail à un thé glacé ou à un breuvage sans alcool.
Et ça c'est très couru dans les bars à whisky, oui. Dans les bars à cocktails, ça se développe. Oui, il y a une vraie tendance de fond.
C'est ce qu'on appelle les classiques. C'est incontournable. Un bon barman qui se respecte ne peut pas ne pas savoir faire les cocktails à base de whisky.
Merci Nir. Barbara Sidris, alors vous êtes barman de quel établissement déjà? Dans quel établissement?
Au Palais de la Méditerranée à Nice.
À Nice, d'où l'accent. Alors on dit bar, barman, barwoman, bar jolie fille, qu'est-ce qu'on dit?
Barbara. Barmaid.
Barmaid, bon. Vous avez toujours voulu travailler dans ce métier?
Toujours, peut-être pas. Mais en tout cas, quand j'ai décidé de m'y intéresser, je m'y suis intéressée à fond et je suis toujours là.
Mais il y a un parcours, un cursus, une formation pour être barmaid?
Après, tout dépend ce qu'on veut faire. Mais moi, par exemple, j'ai fait 2 ans d'études.
D'accord.
De quoi maintenant?
De quoi? Dans la restauration?
Voilà, dans le milieu du bar, vraiment. D'accord. J'ai fait une mention complémentaire barman et un brevet professionnel barman.
D'accord. Et vous sentez la tendance, bien expliqué, qu'on buvait de plus en plus de cocktails? De façon générale, les cocktails, ça marche bien, notamment au bar de la Méditerranée, qu'on salue?
Oui, ça marche plutôt bien. Après, c'est vrai que nous marchons avec une clientèle étrangère. Du coup, avec des clients quand même plutôt habitués en fait à consommer donc des cocktails, mais oui. Aussi les Français s'y intéressent de plus en plus.
Ils sont curieux quoi. Donc ils font confiance en disant allez-y Barbara, choisissez ce que vous voulez, ou alors ils ont leur précaré, si je puis dire.
Eh bien, par exemple, un client américain qui va demander un dry martini va savoir exactement ce qu'il veut.
Exactement, quoi.
Exactement quel type d'alcool, le vermouth et la garnish.
Oui.
Alors que, par exemple, un Français qui s'y intéresse pas trop va plutôt poser des questions et s'y intéresser un peu plus et faire plus confiance au barman.
Bon, quelques cocktails à base de whisky américain, vous pourriez nous conseiller, par exemple?
Eh bien, si je vais citer peut-être mes deux préférés, le Mint Julep et le Old Fashion.
Alors, comment on fait le premier, là, Mint Julep? Comment, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Mint, on prend un Julep?
Alors, le Mint Julep, c'est un cocktail plutôt vieux, qui a beaucoup d'histoire. Et en fait, il se fait dans un verre Julep, donc c'est un verre en métal, avec donc c'est une base de sucre, bitter, feuilles de menthe fraîche, whisky américain.
Et les doses sont normées ou vous faites ça au feeling? Ouais, c'est plutôt au feeling, non?
Je vais dire que ça dépend, en fait. Il y a plusieurs écoles, plusieurs recettes.
D'accord.
Plutôt s'adapter, en fait, à la clientèle. Le plus important, c'est qu'il soit équilibré.
C'est ça. Et le deuxième, alors?
Et ensuite, le deuxième, donc, c'est toujours une base de sucre, bitter, whisky américain, et après, dilution de la glace avec... Et avec un zeste d'orange. Voilà.
Bon. Et au bar de la Méditerranée, vous faites ça avec les machins un peu genre Tom Cruise pour les yeux là?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Normal comme fille quoi. Vous avez gagné donc ce fameux concours, hein, Barman Born Foreman 2016. Avec quel cocktail, Barbara?
Alors, du coup, comme je vous en parlais juste avant, j'ai gagné donc avec une revisite entre guillemets du cocktail Mint Julep.
D'accord.
Donc je suis partie sur les mêmes bases, donc qui est sucre, sucre bitter, feuille de menthe, whisky. Du coup, je suis partie donc sur toujours une base de sucre simple, avec comme bitter un bitter céleri. Ensuite, des feuilles d'estragon pour remplacer la menthe.
D'accord.
Toujours un whisky américain. Et pour apporter vraiment une petite touche d'acidité, pour casser le côté herbacé du cocktail, j'ai ajouté de la purée de framboise.
Michel Guéraud, bon, vous avez élu Barbara, bravo. Vous l'avez goûté, le cocktail, il est topissime. C'était
Alors,
le meilleur.
Je ne l'ai pas élu personnellement, puisqu'il y avait un jury quand même d'experts et dont Nier faisait partie. Et effectivement, elle a, je ne dirais pas largement, parce que ce serait...
méchant pour les autres.
Respecté, mais effectivement, elle a surpassé ses compétiteurs par rapport au goût et par rapport à la qualité.
Bravo. Matt, les cocktails hein.
Yes, a big part of American history.
Une grande partie de l'histoire américaine, l'old fashioned, développé il y a très longtemps, au 19e siècle, et c'est revenu pendant la prohibition. Moi, je veux donc un old fashioned drink. Donc, c'est quelque chose qui est ancien. Et Jack Daniel, lui-même, il aimait bien les tulipes. Donc, en fait, c'est parfait comme choix. Donc, oui, il ne prenait pas de la menthe, il utilisait le tamsi. C'était une herbe locale. Donc lui, il avait ça sur sa terrasse chez lui avec son whisky, dans son rocking chair. Donc c'était parfait de gagner avec sa boisson à lui.
Est-ce qu'il avait sept cocktails favoris comme cette femme ou pas du tout? C'était... Non.
Il aurait pu créer un cocktail pour chacune.
He was well known for enjoying all spirits from around the world.
Il aimait tous les alcools en fait. Hein, donc peut-être, hein, donc plus que sept, hein, je pense. Mais sa préférée, bien sûr, ça aurait été son whisky avec un petit.
Bon, avec modération, bien sûr, Nir.
Alors pour la petite histoire, Jack Daniel avait un bar hein, qui s'appelait le White Rabbit. Oui, il avait un bar et donc forcément il y vendait un maximum de Jack Daniel's dedans. Simplement pour faire le lien avec Barbara qui est quand même un ovni dans le monde du bar, hein, elle vous le dira pas elle-même, mais quand elle est arrivée avec sa présentation, il n'y avait pas juste le cocktail, parce que ce qu'on oublie souvent dans les cocktails, c'est tout ce qui va autour du cocktail.
L'esthétique.
Exactement, Philippe. L'esthétique, la présentation, le monde qu'on crée autour du cocktail.
Et quand elle est arrivée comment alors?
Elle est arrivée avec un petit sapin de Noël. Elle nous a fait un cocktail qui était autour de Noël. Elle est arrivée avec un petit traîneau pour servir son cocktail. On était tout autour de Noël sur son premier cocktail. Et puis en finale, derrière, elle nous a fait son fameux julep créé à la minute quand même.
Michel Guéraud, vous qui êtes un peu le Père Noël et spiritueux, c'était sympa cette aventure?
Ah, c'était fantastique. Surtout, ce qui était important pour nous, c'est que effectivement, le cocktail est tendance. Le cocktail aussi est une valorisation professionnelle. Et lorsque vous allez dans un bar, il y a multitude de cocktails, multitude de créativité. Et bien entendu, le cocktail est personnel. Il appartient à son barman, à son propre barman. Ce que nous souhaitions faire, c'est en fait, oui, créer un cocktail et un concours de cocktails, mais un cocktail qui soit aussi réalisable, je dirais, à la maison.
Oui.
C'est-à-dire que si vous avez un cocktail où il y a 25 ingrédients, 15 plantes,
c'est trop compliqué,
et 3 mixeurs, vous n'avez pas, de toute façon, ces ingrédients disponibles à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, en termes d'expertise des Américains de whisky, et notamment nous avons cette chance extraordinaire que nous avons ces cocktails américains historiques qui ont vraiment une histoire. Le Manhattan a une histoire, le Jack Sauer a une histoire. Donc on a voulu vraiment focaliser sur la simplicité du cocktail réalisable à la maison sur la base de l'américain historique.
Philippe Forbach.
Alors c'est vrai que le cocktail, c'est l'histoire, c'est une légende, c'est une créativité qui est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a aussi, notamment en France, un développement du marché de niche sur des vieux whisky, sur des vieux spiritueux, et notamment les whisky particuliers, venus des États-Unis, d'Écosse, d'Irlande ou du Japon. Et on voit une recrudescence d'intérêt pour justement ces whisky extrêmement rares, dont de temps en temps on dit qu'il n'existe plus, puis on voit réapparaître 18 bouteilles d'une cuvée particulière pour le marché français, comme une révolution, comme si on avait récupéré des bouteilles historiques d'un très vieux vin, enfin, etc. Donc il y a à la fois le monde du cocktail, avec une accessibilité, une diversité, une façon très imagée, très contemporaine d'apprécier le whisky. Et il y a aussi ce petit marché qui se développe en France, de très vieux whisky qui se boit plutôt, pour le coup, juste simplement, ou avec un trait d'eau ou un glaçon effectivement comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui permet peut-être d'aller plus au cœur encore de l'histoire et de la subtilité du spiritueux.
Matt, dans la gamme de Jack Daniel's, on trouve aussi des cuvées spéciales, si je puis dire, des séries limitées.
Oui, absolument. Il y a plusieurs éditions spéciales qui sont comme exactement comme vous dites. Bien sûr, notre All Number 7, c'est notre produit principal. Il y a Gentleman Jack. Ça passe sur le charbon de bois. Il y a une double filtration pour avoir quelque chose de plus doux. Nous avons le single barrel. Ça vient de fumée. Donc, il n'y a pas de mélange avec d'autres whisky. Donc, ce sont des fûts qui sont en haut des entrepôts. Et chaque fût est unique. C'est différent des fûts d'à côté parce qu'il y a une maturation différente, un vieillissement différent. Donc, vraiment, ça, c'est un produit très, très particulier. Nous avons aujourd'hui, cette année, notre whisky pour nos 150 ans. C'est un whisky très rare. Il y a très peu de bouteilles c'est très particulier parce qu'on essaie de revenir en arrière. Là, vraiment, donc, des fûts qui sont peu chauffés. À l'époque, ils n'auraient pas chauffé comme nous on fait actuellement. Donc, voilà, il y a peu de chauffage. Donc, on a des parfums très riches. Donc, voilà, donc ça vient de Lynchburg, les fûts.
Merci, Matt Michel. Il y a même des gens célèbres qui ont souhaité se faire enterrer avec une bouteille de Jack, non?
Allez, je suis impressionné par votre connaissance en matière donc,
de bonbons. Oui, j'adore tous les cimetières du monde entier, je les visite.
Alors, un de nos meilleurs ambassadeurs fut donc Frank Sinatra. Donc, Frank Sinatra aussi lié à la période post-prohibition. Et donc, c'était une personne qui adorait le Jack Daniels. Et c'est tout à fait vrai. Il a souhaité se faire enterrer avec une bouteille de Jack Daniels.
C'est QFD. Vous avez la dernière partie de cette émission spéciale en direct du Whisky Lodge. On va parler de commerce avec Cédric Guéquière de la Maison du Whisky, qui va tout dire sur la distribution en France, comment c'est organisé. Alors, juste avant, Célia, ici, nous sommes en direct, il y a plein de gens sympathiques. C'est donc la 11e édition du Whisky Live qui a ouvert ses portes il y a une grosse demi-heure, on va dire.
Exactement.
Depuis, c'est la première, c'était il y a 13 ans.
C'est ça.
Donc, c'est quoi? C'est le rassemblement national des amateurs de whisky.
Exactement. Le Whisky Live, c'est un salon du whisky et des spiritueux. Qui est organisé chaque année à la même période en France. C'est en fait une franchise. Il y a pas mal de Whisky Live organisés dans le monde. Il y en a à Singapour, à Londres, que sais-je. Je pense qu'il y en a aussi aux États-Unis. Je ne sais pas exactement dans quelle ville. Matt me confirmera.
Est-ce qu'il y en a à Béziers? Il y en a partout
dans
le monde. Je
ne pense pas qu'il y en ait à Béziers, par contre.
Il faut y penser.
Et effectivement, on a là, c'est la 11e édition du Whisky Live, mais on fête aussi cette année les 60 ans de la Maison du Whisky. Et c'est pour ça qu'on a essayé donc d'associer cet événement Whisky Live avec l'anniversaire de la Maison du Whisky.
Et
ça tombe bien parce que c'est deux anniversaires en un, donc
oui,
on va célébrer.
Il y a combien de stands de maisons après
Plus d'une centaine.
Une centaine.
Sachant qu'il y a en plus un stand collector, des stands VIP pour déguster ces fameuses raretés et pépites dont parlait Philippe tout à l'heure. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez complet. Et il y a une cocktail street au sous-sol pour aller déguster des cocktails.
Une cocktail street, c'est génial.
Tout à fait, une cocktail street.
Alors là, donc c'est aujourd'hui, donc le 24, demain également dimanche.
Demain.
Jusqu'à 19h30, c'est ça?
C'est ça. Et c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Voilà. Il faut juste acheter sa place en arrivant à l'accueil, tout à fait.
Du coup, ça coûte?
Ça coûte 65 euros pour la
journée. Ah, quand même! Mais ça les vaut quand même, hein.
Attendez, c'est l'après-midi à déguster les meilleurs spiritueux.
Avec modération toujours.
Avec
et à rencontrer des gens formidables de tous les pays, notamment américains. On parle un peu de distribution en France. Célia, comment c'est organisé? Philippe nous a brossé un portrait étonnant.
Tout à fait,
les Français
tout à
consomment beaucoup. Bon, où achètent-ils?
Les Français sont les plus gros consommateurs de whisky au monde, avec plus de 2 litres par an et par personne. C'est vrai qu'il faut, réfléchir, il faut se dire que les Français en fait sont très habitués à consommer de l'alcool en allant acheter leur vin chez leur caviste. Les cavistes sont les commerces indépendants pour l'alcool les plus répandus en France.
D'accord.
La Maison du Whisky, en termes de distribution, nous avons plus de 2500 cavistes en clients en direct, hein, donc des indépendants.
Donc vous revendez à des cavistes, quoi.
Exactement, nous sommes distributeurs. Et c'est vrai que c'est une coutume qui est très répandue en France d'aller acheter, d'aller faire sa propre sélection chez les cavistes de vin, mais aussi de spiritueux. Et c'est là que vous allez trouver la plus belle distribution
donc,
de whisky.
Donc c'est-à-dire que l'amateur a besoin de dialogue, il a besoin de conseils, il a besoin de
conseils.
Pourquoi pas déguster d'ailleurs?
Et déguster. En fait, les cavistes sont les meilleurs brand ambassadeurs qu'on puisse trouver pour les spiritueux parce qu'ils connaissent, ils aiment le produit et ils savent conseiller, ils savent vendre en fait tous les produits ils aiment goûter aussi.
Nir.
Avec modération.
En fait, les cavistes sont les meilleurs brand ambassadeurs, comme tu dis, Célia, parce que ce sont des gens qui aiment le terroir. Il faut jamais oublier que derrière le whisky, il y a de l'humain. C'est un spiritueux qui nécessite de l'humain, comme le cognac, comme le rhum. Ce sont des spiritueux qu'on va faire vieillir, qu'on va travailler. Et sans l'être humain, il ne peut pas exister. Et comme le caviste est quelqu'un qui aime l'humain, puisqu'il aime le vigneron qui fait son vin, qui ne fait pas juste, excusez-moi l'expression, mais pisser sa vigne. Il aime le bon vigneron, le caviste. Et donc, il aime forcément les bons whisky. Et donc, il est précurseur de ce genre de...
Michel Guéraud, nous sommes d'accord, des cavistes, alors ceux que livraient par les maisons de whisky, des chaînes comme Nicolas aussi, ou le repère des Bacchus, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des gens qui sont incontournables dans votre métier.
Et c'est un point important à souligner par rapport à d'autres univers, d'autres marchés de consommation de spiritueux. On a tendance toujours à penser dans notre métier de producteur et distributeur de spiritueux qu'il faut d'abord implanter une marque dans les cafés, hôtels, restaurants, et après, par gravité ou percolation, donc elle passe en grande distribution et au niveau des cavistes. En France, c'est différent. Ce que j'appellerais le business model ou la business distribution à la française, vous jouez sur les trois tableaux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien implanter une marque dans les cafés, hôtels, restaurants, et ensuite elle percole dans les autres réseaux. Vous pouvez aussi, vous avez des marques en France qui se sont installés en grande distribution et qui se sont développés aussi par la distribution. Mais vous pouvez aussi, surtout, par les réseaux cavistes, donc implanter des marques qui vont se développer sans être pour autant présentes, je dirais, dans un premier temps, dans les cafés, hôtels, restaurants, en distribution. Donc c'est ce qui est très important pour nous. Et c'est très important aussi parce que ça permet de mettre en avant des produits d'excellente qualité que l'on ne retrouverait pas dans des réseaux plus, je dirais, typiques ou traditionnels.
Oui, c'est ça. Matt, aux États-Unis, par exemple, cette notion de caviste, on a bien compris grâce à Célia, grâce à Michel, grâce à Nir, que c'était très important, acheteur, prescripteur. Ça fonctionne pareil ou pas ?
It does.
Oui,
we have,
oui. Nous avons donc des distributeurs qui travaillent de la même manière. Donc nous avons des cavistes, les gens, ils veulent apprendre, surtout avec le whisky maintenant. Donc là, c'est tout à fait courant dans le monde du vin, mais cette mentalité maintenant se trouve chez le whisky aussi. Donc les gens, ils ne connaissent pas les produits, ils s'intéressent, ils veulent savoir comment c'est fait, qui fait le whisky. Donc nous avons des gens, 300 000 personnes qui viennent à Lynchburg tous les ans.
300 000 personnes qui viennent chaque année visiter, apprendre et pourquoi pas acheter.
Sachant qu'on ne peut pas boire à Lynchburg.
En plus,
c'est interdit.
Ah oui, c'est un dry county, vous n'avez pas le droit de boire. La prohibition est encore d'actualité là-bas.
Oui, c'est tout à fait vrai, oui, c'est un dry county. Oui. Mais vous pouvez voir, vous pouvez le sentir. Et donc, ça c'est super. Donc là, nos partenaires qui viennent, nos distributeurs, ils peuvent raconter l'histoire.
Promis, pour vos 300 ans, on ira faire une mission spéciale chez vous, là, dans 150 ans, on a dans tout préparé. Célia, concernant le vin, on a plus de 85% des vins achetés en France, achetés en grande distribution.
Des vins, vous parlez ?
Pour les vins, pour les whisky, c'est pareil ou pas ?
Pour les whisky, non, c'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a une large partie de distilleries qui sont implantées en grande distribution, de marques et de distilleries, mais c'est vrai que l'entrée au marché et le volume est quand même fait par les cavistes et par les chaînes de cavistes, comme Nicolas, comme on parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment un gros volume, c'est important pour les marques d'être implantées dans le réseau qu'on appelle nous réseau traditionnel. Et je voulais rajouter quelque chose suite à l'intervention de Barbara. Quand on parle de cocktail et du consommateur français de cocktail qui aime bien se laisser un peu guider, un peu explorer, c'est vrai que nous, sur la scène du cocktail, on voit actuellement qu'il y a beaucoup de nouveaux consommateurs qui vont rechercher à connaître, découvrir dans les bars à cocktail. Parce que c'est la nouvelle génération, on boit de façon responsable, on va juste déguster, et ensuite qui vont chez leur caviste pour retrouver ce même produit. Donc le bar à cocktail ou le bar en général va devenir de plus en plus un prescripteur, et c'est ça qui est très intéressant en ce moment.
Michel, on voit Célia, donc c'est vrai que le Dex Plus Ultra c'est le caviste, mais la grande distribution, on ne peut pas l'oublier en France, ça représente des volumes importants de whisky en sens large.
Oui, alors après, on retombe sur des, je dirais, schémas classiques et traditionnels liés au marché français, c'est-à-dire que vous commercialisez 80% de vos volumes en grande distribution et 20% des volumes donc en café, hôtel, restaurant et aussi sur le réseau caviste. Si je ne m'abuse, je crois qu'il y a à peu près 5000 cavistes en France.
Oui, en total à peu près. Ouais.
Donc, 5000 cavistes.
Vous voyez toute l'importance de ce réseau caviste, et il faut reconnaître qu'au fil du temps, les cavistes se sont vraiment, je dirais, modernisés, réactualisés, rafraîchis les boutiques. Donc c'est vraiment une dynamique tout à fait nouvelle, je dirais ces 10 dernières années, tout à fait nouvelle et particulière, et on considère vraiment ce réseau caviste.
La restauration, Célia, consomme aussi beaucoup de whisky, ils en achètent beaucoup pour le revendre à leurs clients, ou alors c'est encore un tout petit segment de marché.
La restauration, en fait ce qui est intéressant, c'est que la restauration, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une large gamme de marques et de whisky et de spiritueux différentes. Après, en parlant de volume, on est quand même sur quelque chose d'assez limité.
Et Philippe Horbach, par exemple, vous, dans votre restaurant, oui, Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, vous vendez un peu de whisky ?
On vend du whisky.
Ok, on vient vous voir quand même plutôt pour le vin, Philippe.
Oui, mais
tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans le métier de sommelier, il y avait toutes les boissons et notamment les spiritueux. Donc, on consomme effectivement plutôt du whisky à l'apéritif.
D'accord.
De façon très classique, on the rocks, voilà, c'est plutôt le côté frais du whisky du départ, du départ du repas. Alors que les autres spiritueux, je pense au cognac qu'on a évoqué, l'armagnac, le calvados, etc., sont plutôt consommés en fin de repas.
En fin de repas, directement.
Et ça, c'est un peu quand même le côté traditionnel, l'image que l'on a effectivement de ce cycle de consommation.
C'est bien pour être complet sur la distribution. Après, on passera sur un autre sujet. Internet, outil Internet. On vend aujourd'hui des whiskies en France via les supports, les sites, ou alors c'est encore très marginal, dites-nous.
Non, ça, c'est en train d'exploser. Hein. Nous, on sait, enfin, on a une plateforme depuis 97 de vente, et c'est vrai que là, actuellement, on constate que les connaisseurs, les amateurs légers ou les connaisseurs vont aller acheter le whisky qu'ils connaissent ou le produit qu'ils connaissent, vont aller le rechercher sur Internet. Et on a besoin d'avoir vraiment une large gamme pour proposer aussi de la diversité sur Internet. Pour faire aussi ses cocktails chez soi, par exemple.
Bien sûr.
Sur Internet, on peut acheter du
whisky.
Mais
des cocktails
aussi
simples dont parlait Michel. Simple, pas le truc simple avec 300 ingrédients, il faut appeler 40 fois Barbara, on l'ennuie à la fin.
C'est faisable hein, à la maison. Bon. Hein. Je pense que.
Petite question pour Célia. Quelle est la bouteille de whisky la plus chère du monde?
Vous savez qu'il y a eu un record ce week-end à 264 000 euros.
Pour une bouteille.
Une bouteille dans un caisson magnifique. Hein, mais
En or.
Oui, c'est ça, tout presque. En or
pour expliquer qu'effectivement, il y a une très large gamme de prix dans le whisky, dans l'univers du whisky.
Mais les collecteurs n'ont pas de prix. Les collecteurs, par exemple, comme vous disiez, des versions qui sont terminées, il reste 18 bouteilles, on les a retrouvées dans un fond de cave. Quel est le prix de ces versions-là? On ne sait pas.
Michel Guéraud, le positionnement en France de Jack Daniel's, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes présent sur l'ensemble des segments de marché. Alors, c'est un marché qui est important et vous êtes passé du statut d'été distribué par à création d'une filiale aussi.
Tout à fait. Alors déjà, avant de parler à France, je me permets juste de donner un petit peu quelques indications concernant Brown-Forman International, puisque Brown-Forman ne capitalise pas sur son nom, mais plutôt sur ses marques. Donc c'est une société familiale. Hein. Il faut savoir que nous avons 150 actionnaires familiaux et nous sommes à la sixième génération de Brown. Donc c'est très important parce qu'en plus, c'est une société familiale, mais qui est originaire du Kentucky et du Tennessee. Donc elles ont des valeurs donc du centre-sud des États-Unis qui sont quand même de vraies valeurs, à laquelle en tout cas on adhère pleinement. L'autre point important aussi de Brown-Forman, c'est que vous l'avez compris, nous produisons bien évidemment nos liquides, nos bourbons et nos Tennessee whisky, mais nous produisons aussi, vous l'avez compris, l'ingrédient qui rentre dans la recette d'un bon
l'eau.
Whisky Tennessee whisky, c'est l'eau, mais c'est
et
aussi le bois. Voilà, les céréales et aussi
le bois.
Donc nous avons nos scieries, nous avons nos deux tonnelleries qui nous permettent donc aussi de travailler sur ce côté qualitatif élaboration.
Parmi les éléments importants en termes de communication, Michel, c'est cette notion de modération, de respect de la modération que vous prêchez, on va dire, en termes de communication. C'est très important, c'est dans la génétique de Brown-Forman d'être quasiment précurseur en la matière.
Tout à fait, en matière de modération, et qui plus est en France, où nous avons, vous le savez, la loi Evin qui est à mes yeux une excellente chose, parce qu'elle force les producteurs de spiritueux en général, pas uniquement les producteurs de whisky, à parler beaucoup plus d'origine, de tradition, d'ingrédients, de mode d'élaboration, que plutôt susciter l'émotion et l'envie personnelle de consommation. Donc, en ce qui nous concerne, en tout cas nous, chez Brown-Forman, nous supportons tout à fait cette approche qui, je pense, au niveau du marché français, a permis aux consommateurs français d'être beaucoup plus sensibles à l'approche organoleptique, origine et qualité du produit, plutôt qu'à une approche émotionnelle.
Les perspectives sur les 150 prochaines années, Michel, on va voir si Matt est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer, au moins sur le marché français? Vous allez tripler, quadrupler les volumes, ou alors rester toujours la pépite?
Alors Alain, vous allez être surpris, mais nous sommes très optimistes. Nous sommes très optimistes, pourquoi? Encore une fois, tout en restant relativement pragmatique, le marché français, comme le soulignait Philippe, c'est le troisième marché mondial. Mais ce n'est pas uniquement une question de volume, c'est une question de qualité de consommateur. Le consommateur français est en recherche de découverte, est en recherche de qualité. Donc il recherche différentes origines, il recherche différentes qualités, et c'est ce qui explique aussi l'importance du réseau caviste, où on peut exprimer différentes qualités, et pas uniquement ne parler qu'une question de prix de vente consommateur. Donc sur un marché, vous le comprendrez très simplement, qui fait aujourd'hui 15 millions de caisses de 9 litres, aujourd'hui, Jack Daniel's, Brown-Forman France, représente à peine 7%.
Oui.
Donc ça veut dire que nous avons encore un espace de développement considérable devant nous, mais notre qualité d'expert en matière de bourbon et de Tennessee whisky, où nous représentons aujourd'hui, dans notre catégorie d'américaine aussi, 80% du marché. Donc nous sommes tout à fait les moteurs, les locomotives de cette catégorie. Et je dirais très égoïstement, notre souhait et notre volonté, c'est de convertir les consommateurs de whisky français au bourbon, au Tennessee whisky, et de préférence à nos marques, tout ceci en prenant la responsabilité et la modération.
Bien sûr, l'avenir, on en parlait avec Michel, donc plutôt positif aussi sur les whisky américains.
Oui, très très positif, parce que pendant très longtemps, en fait, le whisky américain était largement dénigré, d'abord parce que la qualité n'était peut-être pas forcément, non pas au rendez-vous, mais en tout cas pas ce qu'attendaient les vrais aficionados de whisky, et principalement de scotch. On savait qu'il y avait des maltes, on savait tout ça. Les Français recherchaient vraiment les pépites, entre guillemets, comme le disait très, très justement Philippe. Et aujourd'hui, les pépites existent aux États-Unis. Donc ces pépites, on va pouvoir enfin les mettre en avant et puis les exploiter. Et ça, on en a de plus en plus dans les whiskies américains. Et donc, ça va attirer les publics de connaisseurs.
Philippe Aubrac, pour terminer.
Pour terminer, le whisky en France s'est surtout développé après la Deuxième Guerre mondiale. On appelle ça la boisson des libérateurs. Alors, c'est vrai grâce aux Écossais, aux Irlandais, mais aussi aux Américains, qui ont emmené avec eux cette culture finalement du whisky qui célébrait le bien vivre, les valeurs auxquelles faisait référence tout à l'heure Michel, et rendu finalement accessible et presque sacralisé un petit peu cette boisson en lui donnant des lettres de noblesse extraordinaires depuis maintenant une soixantaine d'années.
Merci à tous, merci Michel Guéraud d'avoir accueilli cette émission spéciale. Merci également à vous Matt d'être venu spécialement à Paris. Vous êtes content d'être avec nous?
Énormément. Vous avez parlé de l'avenir. Nous avons 150 ans derrière nous et nous avons 150 ans au moins devant nous. Et les gens de Lynchburg vous remercient également.
Merci évidemment à Célia, à Barbara, à Philippe, à Bernard, à Nir. Je vous donne rendez-vous demain à 16h pour un nouveau numéro d'une vidéo BFM. Nous parlerons de vin. Et oui, d'ici là, les infos de 14h. Restez fidèles à BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations tout le temps et y compris pendant cette 11e édition du Whisky Live.